France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
À Belém, au Brésil, la COP30 a rappelé une évidence. Aucune trajectoire climatique mondiale ne peut se dessiner sans la Chine. Pékin avance à un rythme inédit dans les énergies renouvelables, tout en restant le premier émetteur de gaz à effet de serre et en construisant encore des centrales à charbon. Cette coexistence de progrès rapides et de contradictions profondes brouille la place réelle de la Chine dans la lutte climatique. Alors veut-elle être un moteur de la transition ou bien préserver avant toute chose ses intérêts industriels et géopolitiques? Et que disent ces choix internes de l'avenir du climat du monde? Pour nous éclairer ce soir, une invitée, Stéphanie Monjon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignante-chercheuse en économie à l'université Paris-Dauphine PSL, responsable du Master 1 Affaires internationales et développement et vice-présidente à la responsabilité environnementale et sociale. Merci d'être ce soir dans Question du soir.
Cette année marque le 10e anniversaire de l'accord de Paris, une année charnière pour que les pays soumettent leurs nouvelles contributions déterminées au niveau national. La gouvernance climatique mondiale entre dans une phase cruciale. La transition écologique et bas carbone est l'enjeu majeur de notre époque. Nous devons approfondir notre coopération. Il est essentiel que les pays renforcent leur coordination internationale afin de pallier le déficit des capacités de production de technologies vertes pour que les bénéfices du développement durable profitent à tous.
Le président chinois Xi Jinping, il faut nous expliquer, Stéphanie Monjon, ce paradoxe apparent, ces ambitions affichées très élevées par le président chinois et dans le même temps, son absence manifeste dans cette COP30 au Brésil.
C'est vrai que par rapport à la situation d'il y a 10 ans, donc premier mandat de Trump, les États-Unis se retirent de l'accord de Paris et Xi Jinping est beaucoup plus présent et a vraiment un discours pour rassurer ses partenaires et pour dire nous continuerons à être un allié stable dans cette lutte contre le changement climatique. Là, on est dans une situation qui est très différente, deuxième mandat de Trump, mais avec, on va dire, une planète un peu divisé. On l'a constaté, notamment en raison de conflits liés notamment à la Russie. Donc là, la Chine est un peu sur une ligne de crête, c'est-à-dire en guerre commerciale avec les États-Unis ouverte, avec on voit des bras de fer assez fréquents, avec des relations compliquées avec l'Union européenne, et pourtant avec des enjeux, alors, liées aux technologies bas carbone, ce qu'il appelle technologie verte, moi j'appelle plutôt ça technologie bas carbone, qui sont vraiment devenues un air de la croissance économique. Donc, et aussi, au sein de la COP30, et au sein des COP en général, la Chine se voulant un peu le leader du Sud global. Donc, il doit à la fois rester présent, mais avec peut-être en se mettant un petit peu en retrait. Donc je pense que ça explique diplomatiquement, il n'y a ni effectivement le président, ni le premier ministre, mais pourtant une voix de la Chine qui est aujourd'hui forte du fait de leur performance en matière de technologie bas carbone.
Alors cette voix de la Chine au Brésil, à Belém, quelle est sa visée là aussi très concrètement? Est-ce que c'est un peu à la façon de l'Europe de durcir les règles en matière environnementale et de créer un espace et des règles communs pour permettre une harmonisation en matière climatique, ou bien c'est d'abord et avant tout de faire la promotion de son industrie, de ses produits, de ses nouvelles technologies en matière climatique?
On pourrait dire l'un et l'autre. C'est-à-dire que je pense que la Chine essaie de dessiner un nouvel espace en lien avec le Sud global, vraiment quelque chose où il prend le lead sur ça. Donc, le retrait de Xi Jinping, ça peut aussi se comprendre comme vous avez, vous, occidentaux, donc mis en place ces structures, donc dans le cadre de la Convention climat des Nations Unies, et moi, j'ai participé, je reste un allié stable, mais peut-être que je suis aussi en train d'inventer un nouvel espace en tant que leader du Sud global, où nous allons commencer à jouer de tout notre poids pour des règles qui seront Il y a beaucoup aux caractéristiques chinoises. Souvent, on entend, on peut lire ça. C'est-à-dire, on va inventer le développement durable, mais aux caractéristiques chinoises, eh ben, c'est ce qu'ils appellent la civilisation écologique.
La ligne de crête est fine, là, si je puis dire. Dans le même temps, ils sont partisans, défenseurs, promoteurs même d'une forme de multilatéralisme hein, qu'ils tentent de défendre, de promouvoir. Dans le même temps, ils nous disent, à nous, occidentaux, européens, américains, on va tenter de réinventer les formes de ce multilatéralisme et les formes de la discussion environnementale.
C'est ce qu'on voit dans des registres, enfin, dans d'autres dossiers. Donc, on a maintenant des blocs qui sont en train de se dessiner et avec deux puissances, les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre. Et c'est un peu ce qui est en train de se dessiner depuis maintenant plusieurs années. Et bien sûr que la question climatique participe à ça. Donc, l'image de la Chine vis-à-vis de très nombreux pays, notamment du Sud, mais pas seulement, parce qu'on a vu aussi des divisions au sein de l'Union européenne sur ces questions, dans les relations à la Chine et dans le programme sur les nouvelles routes de la soie. Donc, c'est quelque chose où on garde ce cadre, il existe, on participe, mais en commençant à en prendre une certaine distance, on va dire, avec un cadre qui a été créé par les Occidentaux.
Alors regardons la Chine en face. Si l'on tente d'une façon générale de comprendre où en est la Chine aujourd'hui dans sa transition climatique et énergétique, où la situez-vous aujourd'hui ?
Alors on parle déjà, on va parler de climat parce que en fait l'environnement c'est très large. Donc transition énergétique, écologique, de quoi parle-t-on ? J'ai envie de dire quand même un mot. Des problèmes de pollution et notamment de qualité de l'air qu'on a pu observer, qu'on a connu dans les années 2010 et qui ont été pour les autorités en Chine un sujet d'importance. Aujourd'hui, les problèmes de pollution, enfin l'environnement est devenu quelque chose qui est très observé par le pouvoir. Mmh. C'est un facteur considéré comme pouvant déstabiliser le pouvoir et donc les discours sont vraiment tenus. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre. S'agissant du climat, c'était moins vrai, ça le devient. Donc le climat devient quelque chose qui est extrêmement stratégique pour Pékin. Donc aujourd'hui, on a ça. Et j'aimerais ajouter qu'on a de plus en plus de difficultés à avoir des données. Des données sur la pollution de l'air aujourd'hui en Chine, sur la pollution de l'eau. Donc, il y a eu, depuis l'arrivée de Xi Jinping, un peu une fermeture sur un certain nombre de documents ou de données auxquelles on avait accès. Donc, bon, voilà. Donc, ça, il faut quand même le dire, le partager. Donc, on essaye de continuer à suivre un peu l'état de l'environnement avec une difficulté.
Que sait-on malgré tout, alors ?
Oui, que sait-on malgré tout, quand même, en matière d'émissions de gaz à effet de serre, il y a bon, des inventaires nationaux qui sont retransmis au secrétariat des Nations Unies, et on peut croiser, un petit peu vérifier qu'il y ait une certaine cohérence. Donc, comme vous l'avez dit, on peut trouver paradoxal qu'il y ait à la fois une augmentation extrêmement forte des capacités renouvelables en Chine, enfin vraiment, c'est extrêmement impressionnant hein, ce qui a été réalisé. Ça, personne ne peut le nier. Et en même temps, on continue à ouvrir de nouvelles centrales thermiques au charbon. Je regardais les derniers chiffres. Donc, on a à peu près une capacité de 1400 gigawatts centrales thermiques charbon aujourd'hui en Chine. Et dans ce qui est prévu, permis, on a encore 250 gigawatts dans les années à venir. Quoi.
Qu'est-ce que ça veut dire pour qu'on mesure
ça veut dire
des chiffres
qu'on a déjà un parc qui est colossal et on va, vous voyez, 250, si on veut rapporter à 1400, on est quasiment sur 20% qu'on augmente. Alors, sachant qu'il y a beaucoup d'annulations aussi. Donc, on prévoit et finalement, on annule l'ouverture de centrales, de nouvelles centrales thermiques au charbon. Alors, pourquoi ? On peut se dire, mais pourquoi on continue à ouvrir des centrales thermiques alors qu'ils augmentent leur capacité renouvelable ? Donc déjà, un premier point, c'est qu'il faut se souvenir que le renouvelable, c'est intermittent. Donc, à un moment, c'est intermittent. Ça demande une gestion du réseau électrique, un renforcement du réseau électrique. C'est des questions un peu techniques, mais qui sont vraiment cruciales et qui se posent aussi ailleurs. Et donc là, il y a eu une augmentation de la capacité renouvelable en Chine. Et on n'arrive pas à les intégrer à la vitesse des constructions, de la pose des panneaux, la construction des éoliennes. Donc, il y a des difficultés encore sur ces questions. Et puis, l'intermittence, ça nécessite aussi, alors, du stockage, ils sont en train de développer, mais ça nécessite à un moment de pouvoir lancer des centrales thermiques quand on n'a pas de vent et quand on n'a pas de soleil, quand on n'a pas de production liée aux renouvelables. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point qui est très important, et la Chine est un grand pays, est un pays un peu compliqué, c'est que ils ont besoin, traditionnellement, l'industrie liée au charbon, que ce soit en matière de production ou de construction de centrales thermiques, ça reste une industrie, ça a été une industrie très puissante, et ça reste une industrie puissante. Donc, il y a des soutiens au niveau territoriaux, locaux, il y a des intérêts économiques qui restent très forts, et donc avec encore des financements publics pour financer en partie des nouvelles centrales thermiques charbon.
Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur le photovoltaïque, sur les panneaux solaires qui attirent considérablement l'attention aujourd'hui. La Chine a bâti le plus grand champ de panneaux solaires au monde. Il s'étend sur 610 km² et dans le même temps, ce secteur du photovoltaïque traverse une crise importante. Alors il faut nous expliquer là aussi ce paradoxe, j'allais dire cette prouesse en matière de grands travaux, de réalisation et leur gigantisme, et dans le même temps, cette crise du secteur.
Alors, quand on remonte un peu dans l'histoire économique ou industrielle, ces deux dernières décennies de la Chine, qu'est-ce qu'on rencontre régulièrement ? Des problèmes de surcapacité. En général, dans les années 2000-2010, c'était plutôt de l'industrie lourde. Alors, ça a continué l'industrie lourde.
C'est-à-dire qu'on produit trop, on produit trop d'acier, trop de photovoltaïque.
C'est-à-dire qu'ils ont des capacités de production supérieures à la demande, notamment interne, mais aussi mondiale. Donc, moi, j'avais suivi un peu, je suis depuis longtemps l'acier. Ça a été, au moment de la crise économique 2008-2009, leur programme, leur politique de relance a consisté à financer. On parle en économie d'un modèle de croissance qui va être soutenu par l'investissement. C'est vrai que nous, ça nous paraît étrange. Donc, ils mettent à la disposition des industriels des subventions, des soutiens par des banques pour construire encore plus de capacités.
Donc là, il y a trop concrètement panneaux photovoltaïques.
Il y a trop de producteurs de panneaux. Trop de panneaux. Là, il y a des panneaux, ils sont déployés, il faut réussir à les intégrer dans le réseau.
Il y a trop de producteurs qui n'ont pas assez de panneaux à construire.
Ou alors, ils en produisent beaucoup et ils n'ont pas de clients. Et donc, quelqu'un me racontait il y a quelques mois que dans un port européen, il y avait quasiment des stocks pour un an de panneaux photovoltaïques qui restaient là. Et dans ce que j'ai lu récemment, Pékin a planifié de fermer un tiers, imaginez, des capacités de production des panneaux dans les 2 ans à venir. Donc, ça voudrait dire qu'ils considèrent qu'ils ont des sites industriels et un tiers de ces sites industriels doit être fermé dans les 2 ans à venir. C'est considérable.
Expliquez-nous, Stéphanie Mongeon, où la Chine se situe cette fois-ci en matière de construction de batteries. On sait que c'est un enjeu mondial majeur pour équiper notamment, mais pas seulement, les voitures électriques. Là, dans ce domaine-là, en termes de production, là aussi, une fois de plus, où la Chine se situe-t-elle ?
La Chine a vraiment identifié ce secteur très tôt. Donc, a eu un soutien en matière de politique industrielle vraiment très, très, très important et continue à l'avoir. Et donc, elle se situe là aussi, on commence à deviner des surcapacités. Alors, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de véhicules qui répondent à la demande intérieure. Donc, il y a vraiment quasiment une grande partie du parc mondial qui se trouve en Chine en matière de véhicules électriques / batteries. Mais donc, on voit qu'il y a vraiment cette capacité de submerger, en fait, le marché mondial avec leur capacité de production. Et donc, la Chine, elle maîtrise, elle fait des progrès. Il faut aussi voir qu'il y a des entreprises, les entreprises chinoises entre elles, se font vraiment une concurrence extrêmement forte. Il n'y a pas de... Et même, les provinces aussi entre elles...
Il n'y a pas un front commun chinois.
Ah non, il n'y a pas de front commun. C'est vraiment l'entreprise qui est en concurrence, qui va essayer de trouver des moyens de réduire les coûts de production. Et donc, tout ça, ça conduit à... On a vu une baisse impressionnante du coût du panneau photovoltaïque. Donc, vraiment, c'est dans des proportions extrêmement importantes. Je me souviens des courbes, on était à moins 70% par rapport au coût du début. Donc, ça a ça a continué. Hein. Donc, on peut aussi s'attendre, ça a déjà été le cas, hein, mais à des coûts de production des batteries en Chine qui vont continuer, notamment du fait de cette concurrence extrêmement forte entre industriels chinois.
Photovoltaïque, batterie électrique, pourquoi est-ce que la Chine investit massivement dans ce domaine? Est-ce que c'est pour sauver le cœur de la planète et nous permettre à toutes et tous de respirer sainement? Ou bien il y a derrière des intérêts économiques, industriels, diplomatiques même, bien plus profonds?
Oui, alors juste peut-être une petite parenthèse avant de vous répondre, c'est on parle des fois de technologie propre. Moi, je déteste ce terme parce que il n'y a qu'à aller voir des documentaires sur les mines, hein, et puis on constate à quel point ces produits posent aussi problème,
hein, notamment dans leur construction.
Notamment au moment de l'extraction et du raffinage des métaux. Donc, ce sont des produits qui sont extrêmement gourmands en métaux, notamment le véhicule électrique, c'est très impressionnant par rapport à un véhicule thermique. Et donc, ça induit des conséquences environnementales qui sont extrêmement fortes, notamment au niveau des mines au moment du raffinage. Donc, il faut quand même...
Parler de produits bas carbone, vous nous l'avez dit.
Oui, moi je parle de technologie ou d'équipement bas carbone. Donc, pour revenir à votre question, je ne sais pas ce que ça veut dire sauver la planète. C'est-à-dire que ce sont des produits. La Chine a été extrêmement forte. C'est-à-dire qu'elle a identifié un croisement d'intérêts en disant, au moment où elle a identifié ces technologies, elle a dit je vais soutenir le développement de ces technologies, je veux ces industries chez moi et je vais les développer. On pouvait anticiper une demande en forte croissance dans les années, dans les décennies à venir. C'est le cas, c'est ce qu'on a constaté. Donc, elle s'est positionnée sur ces secteurs. Elle avait envie de diminuer un peu sa forte contribution de l'industrie lourde, qui était très polluante, etc., en allant vers des produits technologiques qui allaient et répondre à des marchés très dynamiques, et c'est le cas, et on a encore des prévisions extrêmement fortes en termes d'augmentation de la demande. Et donc, et elle a très bien réussi. Donc, il y a bien sûr des enjeux économiques qui sont certains. Il y a eu aussi des enjeux en termes de sécurité énergétique. Donc, parce que ça, c'est une problématique en Chine qui restera. C'est aussi pour ça qu'on a une telle présence du charbon. Et il y a eu des enjeux en matière de qualité de l'air. Le fort développement et rapide des véhicules électriques en Chine, je pense que c'est surtout une réponse pour diminuer la pollution de l'air, notamment dans les grandes villes, hein, parce qu'on avait vu des images absolument terribles, hein, en termes de
au fond de l'air jauni.
Ah oui, on appelait ça air apocalypse, hein, parce que vraiment c'était très impressionnant. Et aujourd'hui, il y a eu quand même des progrès assez rapides qui ont été réalisés. Et bien sûr, ça tend à avoir des effets sur le climat, les émissions. On les attend. Il y a déjà, on va dire, peut-être une croissance moins importante que ce qu'elle aurait été s'il n'y avait pas eu un tel développement des renouvelables. Mais peut-être que la lutte contre le changement climatique n'était pas le premier objectif.
Je voudrais qu'on s'intéresse, Stéphanie Mongeon, au lien entre la Chine et l'Europe dans le domaine climatique. Après tout, on pourrait se dire les deux espaces géopolitiques ont intérêt à défendre le multilatéralisme, ils le font, ont intérêt à défendre l'accord de Paris signé en 2015, ils le font, et dans le même temps, cette alliance ne se fait pas, ne se crée pas. Comment expliquer alors ce désalignement sur les sujets climatiques entre la Chine et l'Europe?
Désalignement, je ne suis pas sûre que je reprendrai exactement ce terme. Aujourd'hui, il y a des tensions entre l'Union européenne et la Chine, notamment...
En tout cas, aucune alliance ne surgit, de fait.
C'est quand même dans le cadre des négociations climatiques, ce sont quand même les deux poids lourds. Hein, puisque les États-Unis de nouveau sont partis, c'est les deux poids lourds qui soutiennent, font vivre, s'engagent. Donc là, de façon différente, avec des discours différents. Mais je pense que si vous enlevez ces deux acteurs, il n'y aura plus vraiment de négociations climatiques. Donc c'est vraiment des composantes importantes avec leur histoire, leur positionnement, leurs relations. Donc aujourd'hui, il y a des tensions, notamment autour d'une décision de l'Union européenne de mettre des mesures compensatoires, des droits anti-dumping sur certains produits chinois en vue de développer sur le territoire européen des capacités industrielles. Donc l'Europe arrive avec ces questions et se rend compte que la compétitivité des produits chinois est telle, alors compétitivité qui à la fois, effectivement, des niveaux de coûts extrêmement impressionnants, mais aussi des soutiens extrêmement importants depuis longtemps de l'industrie. Et c'est assez dur de démêler à la fois ce qui est l'ordre du soutien public, ce qui est normalement à limiter, on va dire, dans le cadre des accords de commerce, et puis vraiment la performance des industries chinoises.
Je voudrais vous faire entendre la voix du député de la France Insoumise, Mathias Tavel, qui alertait le gouvernement sur la fermeture de l'usine de panneaux photovoltaïques Systovie, basée près de Nantes. C'était en avril 2024.
L'entreprise Systovie, basée à côté de Nantes, est l'un des derniers producteurs français de panneaux photovoltaïques et elle vient d'annoncer être à la recherche d'un repreneur. Elle fait face à la concurrence déloyale chinoise dont les panneaux sont vendus en dessous du prix de revient, 2 à 4 fois moins cher que les Français. Quand enfin allez-vous prendre des mesures protectionnistes pour les industries du renouvelable face à la concurrence déloyale ?
Il est là, au fond, le dilemme européen, protéger l'industrie locale, l'industrie du continent, et dans le même temps, trouver les moyens d'accélérer la transition.
Alors, accélérer la transition, on pourrait très bien être dans un scénario où on se dit, très bien, on accepte de ne pas produire sur notre territoire, et d'acheter des produits chinois qui vont être à un prix extrêmement faible. Donc, le photovoltaïque, les batteries, les véhicules électriques, peut-être demain, enfin, les pompes à chaleur, peut-être demain aussi les électrolyseurs dans la production d'hydrogène. Vous voyez, ça commence à faire beaucoup. Et les éoliennes, plutôt offshore. Enfin, vous voyez, marine, parce que terrestre, bon, il y a des... Donc, là, je pense que les Européens, enfin, et là, je vais dire enfin, parce que moi, j'attends ça depuis 10 ans, qu'on commence à travailler sur cette question. Et je ne parle pas de protectionnisme, je parle d'articulation entre des politiques et des objectifs politiques. Au début des années 2010, on avait une industrie photovoltaïque qui a commencé à naître. Enfin, il y avait des marchés niches. Là, on passe à des marchés qui, à forte, avec une demande, une dynamique importante de la demande. Donc, il y a beaucoup de pays et des États membres qui ont essayé de se positionner dans le secteur du photovoltaïque et qui a été décimé pour beaucoup par la concurrence chinoise. Donc, on a vu exactement ce que ça voulait dire. La question vraiment se posait, est-ce qu'on pouvait avoir une industrie européenne face à une telle concurrence, aussi performante? Concurrence qui est à la fois le fruit de performance, il faut vraiment le reconnaître, mais d'un soutien aussi, d'un tout un écosystème qui soutient l'industrie chinoise. Et ça, c'est extrêmement important, notamment, et qui produit des surcapacités. Parce que s'il n'y avait pas de soutien, on ne pourrait pas avoir de telles surcapacités, parce que les entreprises fermeraient.
Autre espace, comment est-ce que la Chine utilise aussi ces technologies bas carbone, ce discours climatique, pour tisser des liens de plus en plus proches avec les États du Sud cette fois-ci? Comment le climat est partie intégrante de ces relations-là?
Oui, c'est vraiment un instrument d'accompagnement, de puissance, d'influence avec les pays du Sud, hein, notamment qui a été pas mal développé dans son grand programme sur les nouvelles routes de la soie, donc avec des aides pour financer des grandes infrastructures, alors du charbon, hein, mais aussi des aides pour installer des énergies renouvelables. Et donc le discours de la Chine aujourd'hui, et depuis longtemps, c'est un allié stable en matière de lutte contre le changement climatique. Les États-Unis arrivent, repartent, etc. Nous sommes là. Et nous avons concrètement réalisé, donc nous avons une capacité de vous vendre, parfois à un prix peut-être plus bas, des équipements bas carbone qui vont vous permettre vraiment à la fois d'avoir accès à l'énergie sans dépendre de livraison de gaz ou de pétrole. Enfin bon, pétrole, c'est pas tellement pour produire de l'électricité, mais notamment de gaz, et qui vont vous permettre aussi de réduire vos émissions de gaz à effet de serre.
Merci beaucoup Stéphanie Monjon de ces explications. Je rappelle que vous êtes enseignante, chercheuse en économie à l'université Paris-Dauphine PSL. Et puis, je vous recommande, pour approfondir ou faire un pas de côté, le débat dans Questions du soir du 11 novembre dernier. Nous l'avions intitulé « Est-ce que l'Europe fait marche arrière sur l'écologie ?» Vous pourrez le trouver sur l'application Radio France évidemment. Et puis je remercie toutes celles et ceux qui ont préparé cette émission, Rodi Eken, Bruno Barada, Bertie Bourdon, à la réalisation ce soir comme chaque soir, c'était Léa Racine.